aux êtres humains, enfin, en cause généralisée, cette hypothèse me paraît être une hypothèse ad hoc, essentiellement liée au fait que le problème du contour n'est pas traité dans sa bonne généralité mathématique. Alors, en ce qui concerne le métalinguistique, là, je l'ai utilisé, enfin, au sens de la discussion enfin, que j'avais eue cette année avec Jean-Pierre, où on parle de représentation linguistique et où on admet qu'il existe toute une série de niveaux de compilation qui aboutissent à des niveaux métalinguistiques à travers des processus canoniques de réduction comme ceux que l'on trouve, par exemple, en logique combinatoire, de façon à arriver pour chaque expression à une forme réduite, enfin, une forme normale. Et l'idée est que c'est à ce niveau-là que l'on va trouver les schémas grammaticaux qui permettent d'intégrer les archétypes cognitifs, qui peuvent avoir un contenu perceptif, et qu'à partir de là, on peut remonter. Donc, grosso modo, c'est quand même ça l'idée, je ne me trompe pas. Donc c'est dans ce sens-là que je l'ai utilisé. Et alors maintenant, en ce qui concerne la phonétique, comme tu sais, c'est un peu mon dada. donc n'en parlons pas, et on en parlera au déjeuner, mais c'est justement la possibilité de développer des modèles que j'appelle morphologiques pour la phonétique, la phonologie, et qui soient compatibles, non seulement avec les données expérimentales sur la perception catégorielle, mais aussi avec toute une série de travaux, enfin, d'un certain nombre de phonéticiens. Je pense à des gens donc, comme Lindblom, Stuart Kennedy, Lieberman, enfin bon, tout ce groupe-là, qui personnellement me fait considérer cet exemple si important pour le structuralisme comme tout à fait central pour notre débat. C'est pas un hasard si Pilichine, c'est toujours l'exemple qu'il reprend. Alors j'estime que les affirmations de Pilichine ne sont pas satisfaisantes. Que si on prend en considération les singularités des processus acoustiques, exactement comme les processus lumineux, on peut commencer à dire des choses. Mais non, pas du tout. Ah non, ah non. Ah, et puis alors en plus, il y a deux ans, hein, Lindblom, Stuart Kennedy et Lieberman ont justement un peu retourné leur position. J'ai une correspondance avec Lindblom là-dessus. Et pour dire que c'est sans doute du côté des modèles auto-organisationnels, structures dissipatives, théorie des catastrophes, etc., etc., que l'on trouvera les bons modèles pour la compréhension des phénomènes de perception catégorielle. Bon, mais là, comme j'ai écrit un bouquin là-dessus, on va pouvoir en discuter. Oui. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie bien. Pourquoi ? Pourquoi je ne la mettrai pas ? Ah non, 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 non ! Ah non, pas du tout ! Oh là là, c'est pas quand même un réalisme complètement naïf. Non, non, j'admets tout ce que tu veux. Je dis simplement que dès l'entrée, il y a de l'organisation pertinente, significative pour le système. Et ça, c'est une thèse qui, en général, n'est pas du tout admise. Bon, mais maintenant, non, pas du tout. J'admets que ce soit un niveau très bas, très profond. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'après tout ça, nécessairement et obligatoirement, commande l'ensemble de ce processus de remontée. Ah non, non, non. Mais bien sûr que ça permane, qu'il y a quelque chose qui permane, ben évidemment, ben, ça c'est normal, on est obligé de faire une hypothèse de ce genre, mais ça peut être transformé à chaque niveau.
Oui. Je pense que je peux. Je voudrais d'abord te dire, Jean, que tu m'as en partie convaincu à propos de l'argumentation que nous avions ce matin sur le fait qu'on peut dissocier un niveau physique dans l'émergence des phénomènes de cognition. Moi, j'avais le sentiment, et je l'ai moins maintenant, que ce que tu appelles le niveau morphologique fait déjà partie du symbolique. Mais, disons, pour le moment, première partie de l'intervention, tu m'as convaincu. Deuxième partie, je pense que ce qui a gêné M. Leny, et aussi, je crois, Béatrice, c'est l'idée que ce niveau symbolique, finalement, semble avoir la plus mauvaise part dans la mesure où il est surdéterminé par tout ce qui se passe avant. Il me semble qu'il y a une manière simple de résoudre ce problème, c'est d'introduire une flèche, mon problème que j'avais en partie éliminé, mais dont il reste un morceau, et les problèmes qui viennent d'être évoqués, en introduisant une flèche de rétroaction entre le niveau symbolique et le niveau morphologique. Parce qu'en fait, ce niveau morphologique tel que nous le vivons à travers l'évolution, il change. Et il change notre conception de la morphologie du monde physique, n'est pas la même aujourd'hui que celle, je suppose, du pithécanthrope. Pourquoi ? Parce qu'il y a rétroaction du symbolique sur le morphologique. Je prends un exemple concret qui vient d'une expérience récente que nous avons faite en archéologie. Pourquoi pas en archéologie ? Quand on essaye d'utiliser des mécanismes physiques pour analyser des formes d'objets, autrement dit pour créer sur des bases physico-mathématiques une morphologie de nos objets, on se rend compte que naturellement nous obtenons des descriptions qui sont parfaites sur le plan de la restitution possible, mais qui, du point de vue cognitif, ne portent pas les informations que nous voulons leur voir porter. Nous sommes donc menés, c'est de nouveau les épicycles, à modifier cette morphologie en fonction des systèmes symboliques que nous voulons leur faire porter. Elle reste morphologique, cette description, mais elle est fondée sur une sélection des morphologies initiales, et la sélection, c'est déjà un processus cognitif. Nous choisissons parmi des morphologies possibles celles qui sont porteuses de sens, provisoirement, et je répète, cette sélection est déjà un processus cognitif, donc ce niveau morphologique second, ou NR, n'est plus strictement physique, il est physico-cognitif. Alors, j'ai cru percevoir ce même problème sous des formes différentes dans ce qui vient d'être dit, et il me semble qu'une solution simple qui, moi, alors, m'agréerait tout à fait, c'est d'introduire cette rétroaction du symbolique sur le morphologique.
Alors, comme quoi, il faudrait toujours mettre sur les transparents ce qu'on a sur ces papiers. Sur mon brouillon, tu vois, c'est ça, il y a une grande flèche rouge qui repart de là et qui reva vers le monde physique, hein, et que je n'ai pas mise là parce que c'était très concentré. Mais donc, je peux répondre que oui. Enfin, c'est...
J'aurai le plaisir d'ouvrir la séance de cet après-midi. Je n'ai pas besoin de présenter M. Gardin. Il nous parlera de représentation des connaissances et intelligence artificielle. Son exposé durera environ une heure. Il y aura ensuite un quart d'heure à 20 minutes de discussion. Puis, nous ferons une pause d'une demi-heure. Il assurera alors la présidence de la table ronde qui est prévue pour la deuxième partie de cet après-midi. Je lui donne tout de suite la parole.
Merci. Je voudrais d'abord remercier Jean-Pierre Desclés et Jean Petitot pour l'occasion qu'ils m'ont donnée de connaître Urbino, d'une part, et aussi de participer à un séminaire. Mes remerciements s'adressent aussi à M. Paioni, bien sûr, et à ses collaborateurs pour la superbe hospitalité qu'ils nous ont offerte. Le sujet qui vient d'être annoncé m'a laissé un instant perplexe et j'ai hésité entre deux manières de le traiter ou de l'aborder au moins. Une plus générale qui consistait à passer en revue les différentes modalités de représentation des connaissances que l'on peut observer sur le marché, si je puis dire, au moins dans les sciences humaines qui sont celles que je connais. L'autre, beaucoup plus concrète, plus pratique et peut-être plus triste pour vous, qui consiste à prendre un domaine d'application et un seul, une discipline des sciences humaines, et à observer quelles sont déjà les retombées, si j'ose dire, les conséquences pratiques des applications d'intelligence artificielle qui ont été menées dans cette discipline. Après avoir longtemps balancé, j'ai opté pour la seconde solution, peut-être à votre chagrin, parce qu'il m'a semblé que, après et peut-être avant les exposés spéculatifs, ceci n'est pas péjoratif, que nous allons et avons entendu et que nous allons entendre, il était peut-être bon d'entrer dans la concrétude et de montrer sur des exemples pratiques, appliqués, quelles sont les conséquences de ces méthodes d'approche des représentations de connaissances et traitements de connaissances aussi, dans un des domaines au moins qui nous sont familiers, c'est-à-dire, dans le cas particulier, l'archéologie. La référence à l'archéologie est en fait tout à fait contingente, j'espère vous en convaincre. Tout ce qui va être dit à propos de l'archéologie est immédiatement transposable dans d'autres disciplines, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop honte de traiter le sujet à travers une discipline qui est sans doute pour vous assez ésotérique, mais qui se trouve être la mienne. L'objectif des travaux qui ont été menés en archéologie au titre de la représentation des connaissances et de l'intelligence artificielle sont en fait antérieurs à l'apparition de ces expressions, au moins sur le marché courant, dans la mesure où nous nous sommes intéressés à l'analyse des raisonnements qui ont cours dans l'archéologie, avant même que nous ayons à l'esprit des applications d'intelligence artificielle. Le programme de recherche ou de travaux dont je parlerai, et je ne parlerai que sa phase récente, bien sûr, remonte en fait à une vingtaine d'années. C'est donc la raison pour laquelle nous avons déjà des résultats, si j'ose dire, enfin vous pourrez juger vous-même, des résultats ou des retombées de ce programme de recherche, qui a été placé dès l'origine sous le titre de la sémiologie, sémiologie et informatique, c'est le nom qui a été donné à ce programme en 1962, donc il y a 25 ans, et je m'expliquerai sur ces deux termes, au moins sur le premier d'entre eux, à la fin de l'exposé. Vous verrez la raison pour laquelle je me suis référé à la sémiotique, dans un sens certainement très restrictif par rapport à celui qui a cours ici, mais qui malgré tout a des antécédents illustres. L'objectif donc de ce programme est de comprendre, d'abord d'élucider les raisonnements qui nous sont propres en archéologie, leur architecture, logique ou paralogique ou pseudologique. J'introduirai tout à l'heure le terme logiciste que nous employons pour exprimer ce genre d'analyse, afin non seulement de comprendre ce que sont les bases, les mécanismes et les fondements de nos raisonnements, mais aussi de changer ces raisonnements. Je m'explique par le mot « changer ». Le programme dont je parle est un programme éminemment normatif. Il n'a pas honte de l'être. Il part d'un sentiment d'insatisfaction ou de lassitude, comme on voudra, à l'égard de ce que sont les constructions archéologiques. Insatisfaction partagée par un certain nombre d'entre nous dans la discipline, pour deux raisons principales. La première, c'est le sentiment diffus d'une très grande monotonie des processus interprétatifs, derrière une rhétorique extrêmement riche et verbeuse, la mienne compris. C'est la première source d'insatisfaction ou d'inquiétude. Et la seconde, plus pratique, c'est la pression croissante à laquelle nous sommes confrontés de réduire l'encombrement, si je puis dire, à la fois dans un sens intellectuel et dans un sens économique ou pratique, l'encombrement de nos publications. Alors, les deux pulsions convergent vers cette révision des mécanismes et des fondements des constructions archéologiques. J'emploierai souvent le terme de construction dans un sens peut-être trop ambitieux. Le postulat de départ, c'est qu'un écrit, un texte archéologique, qui est en général un texte interprétatif, on interprète des vestiges archéologiques pour reconstituer des éléments de la vie et des modes d'organisation des sociétés anciennes. Notre postulat, c'est que ces textes, ces écrits, sont des textes construits. Construits entre deux pôles, qui devrait être assez évident, je pense, le pôle empirique, qui est constitué par les observations archéologiques, les descriptions de vestiges et de monuments et de leur contexte, et le pôle interprétatif, où se placent, s'égrènent les propositions interprétatives qui sont la finalité de ces constructions, qui sont leur raison d'être. Ce qui va nous intéresser, donc, dans un premier temps, c'est la première partie de mon exposé, c'est l'analyse de ces constructions pour en restituer quelque chose qu'on pourrait appeler leur architecture logique ou logiciste. Je montrerai ensuite la convergence ou la congruence entre les formalismes que nous avons utilisés dans cette première phase du programme et les formalismes des systèmes experts, ou du moins d'une famille de systèmes experts appelés systèmes de production, et je resterai ensuite dans l'univers de l'intelligence artificielle. Mais il m'a semblé sage de commencer par le début à la fois logique et chronologique, c'est-à-dire l'analyse des raisonnements en tant que tels, sans nous préoccuper immédiatement de leur reformulation dans les termes de base de connaissances dans les perspectives de l'intelligence artificielle. Alors la première question que vous vous posez sans doute, c'est la source de nos informations, c'est-à-dire où allons-nous chercher ces constructions qui sont notre objet d'étude. La réponse est simple, dans la littérature archéologique. Autrement dit, nous allons prendre des constructions à l'état fini, lorsqu'elles sont livrées au public savant ou profane, à l'état fini, sous forme d'un texte archéologique publié dans une revue ou dans un livre. Nous postulerons que les connaissances que nous devons représenter, que nous devons manipuler, sont incarnées dans ces constructions. Ce sont celles qui sont mobilisées dans la facture, la fabrique même de ces constructions interprétatives.
La démarche, seconde question, la démarche d'analyse qui va nous permettre de passer d'un texte écrit dans une langue naturelle à sa reformulation sous forme d'une schématisation, je vais immédiatement définir ce terme, cette démarche, je vous le déclare tout de suite, est une démarche sale, je dirais inconnue. Nous ne savons pas comment nous procédons nous-mêmes pour fabriquer ces schématisations. Autrement dit, le passage de texte en langue naturelle à une reformulation sous forme de schématisation et plus tard sous forme de base de connaissances est un passage totalement obscur. Nous ne sommes pas embarrassés parce que les précédents sont innombrables, en information scientifique en particulier. Nous fabriquons tous des résumés. Nous n'avons pas la moindre idée de la façon dont nous procédons pour fabriquer les résumés. Nous faisons même de l'indexation, qui est une opération en apparence plus simple. L'indexation d'auteur, c'est assez fréquent, et nous n'avons pas non plus la moindre idée des transformations qui séparent les textes naturels de leur représentation dans un langage d'indexation. Cela dit, nous pratiquons cet exercice couramment et personne n'a l'air d'en être incommodé. Donc nous baignons dans le même flou à l'égard de la démarche interprétative elle-même. Je reviendrai sur ce point plus tard à propos de l'utilisation éventuelle de démarches d'analyse linguistique ou logique pour essayer de combler cette lacune. Mais d'abord, voyons le produit, qui est au fond la seule manière de définir la démarche, c'est parce qu'elle produit, ce qu'elle engendre, et j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Je voudrais traiter assez vite pour me concentrer sur ces questions de retombées dont j'ai parlé, qui me paraissent à mes yeux les plus importantes. Le terme schématisation désigne ce genre d'objet. Avant de le commenter, d'où vient le mot schématisation? Nous l'avons emprunté à un logicien, Jean-Blaise Grise, un logicien suisse, qui, depuis déjà une vingtaine d'années, s'intéresse à ce qu'il appelle, après beaucoup d'autres, la logique naturelle, la logique sous-jacente au langage naturel, d'une manière générale, et plus particulièrement la logique naturelle des textes de sciences humaines. C'est un des motifs récurrents dans l'œuvre considérable de Jean-Blaise Grise et de ses collaborateurs à Neuchâtel, au Centre de recherche sémiologique de Neuchâtel. C'est un des thèmes récurrents que de poser les textes de sciences humaines comme étant un corpus privilégié, en quelque sorte, pour étudier la logique naturelle. Pourquoi ? Parce que la langue qu'on y pratique est une langue proche de la langue naturelle, peu spécialisée, accessible au plus grand nombre, ce qui peut être vérifié tous les jours, mais d'autre part, c'est quand même une langue qui, dans des écrits de sciences humaines, devrait obéir à certaines règles de raisonnement, et par conséquent, cette logique devrait être plus patente, plus manifeste dans des écrits de sciences humaines que dans des écrits de la langue dite vulgaire ou profane. Dès 1962, je crois, Jean-Blaise Grise proposait d'appeler schématisation le produit d'une sorte d'étape intermédiaire entre la langue naturelle et la reformulation de textes en langue naturelle à la manière d'une ou d'autre logique. Cette étape intermédiaire, qu'il appelait aussi pré-formalisation, recevait sous sa plume le titre, prospectivement au moins, de schématisation. Nous avons donc repris le terme pour désigner un objet qui se place à peu près à la même étape aussi, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore une formalisation, loin de là, de l'architecture logique d'un texte scientifique, mais qui est quand même autre chose que la version naturelle de ce texte. J'en viens maintenant aux commentaires de ces schématisations. C'est peu lisible, mais enfin, suffisamment, je pense. Ce que représente à la base P0, les propositions P0, ce sont les propositions descriptives, les propositions empiriques. Celles par lesquelles l'archéologue souvent commence ses écrits, je dirais presque toujours, la description d'un certain nombre de vestiges ou de monuments qui l'intéressent, qui sont censés porteurs d'informations sur les sociétés anciennes. Ces données P0 sont des données symboliques, bien sûr, parce qu'exprimées dans un langage quelconque, le plus souvent un langage naturel, peu spécialisé, mais ce sont des données symboliques, ce ne sont pas des données matérielles. Je prends la construction à partir du moment où elle a déjà basculé dans l'univers symbolique. Nous ne traitons pas d'objets physiques ou matériels, nous traitons de représentations symboliques de ces objets. Ce qui se passe entre la perception physique des objets et la formulation de P0 reste obscur aussi, pour le moment. À l'autre extrémité de la schématisation, c'est-à-dire en haut, se trouvent les propositions interprétatives finales. Finales en ce sens qu'elles n'ont pas de conséquences. Je pourrais dire pour P0, revenant à P0, que ce sont les propositions initiales dans la mesure où elles n'ont pas d'antécédents symboliques. Leurs antécédents sont des antécédents perceptifs, mais non pas cognitifs. PN, ce sont les propositions terminales dans ce sens, ça ne veut pas dire qu'elles se trouvent à la fin de l'article, bien sûr, elles peuvent être au début, souvent, on commence par énoncer la conclusion à laquelle on veut aboutir, Ce sont des propositions interprétatives qui sont données comme les conclusions de l'étude ou les hypothèses que l'on a vérifiées par un certain traitement des données P0. Entre ces deux pôles, qui sont les deux bornes en quelque sorte de la construction, viennent s'échelonner des propositions intermédiaires, PI, P1, P2, PN, qui sont liées à P0 par des opérations que nous allons appeler d'un terme volontairement vague, des dérivations, à quoi vous pouvez substituer le terme inférence si vous préférez, en tout cas pas transformation, parce qu'il ne s'agit pas de transformation linguistique, non plus de manière. Donc des dérivations, ou plus généralement encore, je dirais, des opérations de réécriture. Ayant écrit P0, nous réécrivons P1. Ayant écrit P1, nous réécrivons P2. Quelle est la base de ces inférences ou de ces dérivations? Qu'est-ce qui nous autorise à pratiquer ces opérations de réécriture? C'est un des points importants, justement, que nous allons essayer de, non pas de traiter, mais d'évoquer. Dans une schématisation, donc, on voit apparaître les deux composantes essentielles de ces reconstructions, comme nous les appelons quelquefois, ou de ces constructions. La composante que j'appellerais sémiologique, qui est représentée par le langage de représentation utilisé pour formuler P0, c'est-à-dire formuler les propositions descriptives. Je répète, en première approximation, on a le sentiment que ce langage est un langage naturel. En fait, c'est un langage pseudo-naturel, comme nous le verrons abondamment. Et la seconde composante est une composante logique ou paralogique ou logiciste, est représentée par l'ensemble des opérations de réécriture PI, PI plus 1, si l'on procède dans le sens ascendant, empirico-inductif, ce qui est le sens le plus courant dans la littérature archéologique, mais on peut aussi procéder dans l'autre sens, énoncer d'abord PN, l'hypothèse, puis par des déductions successives, rejoindre la base de données P0 pour vérifier, dans le meilleur des cas, pour étayer au moins l'hypothèse PN. C'est le chemin hypothético-déductif où l'on passe de PN à P0 par des opérations de réécriture qui, dès lors, sont PI, PI moins 1. Pour nous, le sens de lecture est indifférent. C'est-à-dire que nous abordons avec la même aisance, maintenant en tout cas, des constructions qui suivent l'un ou l'autre de ces deux modes, et ces deux modes sont pour nous indifférents lorsque nous abordons des constructions à l'état fini. Je ne veux pas dire que la genèse de ces constructions suivent indifféremment un chemin ou l'autre, ce serait une hérésie. Mais des constructions étant des objets finis, c'est ainsi que nous les prenons, qu'elles aient suivi le mode ascendant ou descendant, pour ne pas répéter ces deux longues expressions empirico-inductif et hypothético-déductif, qu'elles aient suivi le mode ascendant ou descendant, nous importe peu. Je ne voudrais pas en dire plus sur les schématisations logicistes, sinon que nous les avons pratiquées sur environ, une bonne trentaine de constructions archéologiques, depuis une quinzaine d'années. C'est ce qui nous donne une certaine expérience maintenant dans ce genre d'exercice. Je ne parlerai pas donc de ces exercices puisqu'ils sont archéologiques et vous intéressent à ce titre assez peu, mais je voudrais tout de suite passer à mon second volet, qui est le volet système expert. Comment est-ce qu'on transforme ceci en une base de connaissances? Merci. L'analogie avec le formalisme des systèmes de production, pour ne parler que de cela, est tout à fait évidente pour ceux d'entre vous, je crois nombreux, qui ont déjà pratiqué ces systèmes. J'ai récapitulé en haut donc les deux composantes de nos schématisations, les données symboliques P0 d'une part et les ensembles d'opérations de réécriture d'autre part, et j'ai placé en dessous, sur le schéma, une représentation tout à fait courante du mode de fonctionnement des systèmes experts, où l'on distingue dans la base de connaissances d'une part la base de faits, qui sont l'équivalent de nos propositions P0, ce sont les faits empiriques, les données de base ou la base de données, comme vous voudrez, et d'autre part la base de règles, qui sont l'équivalent ou le correspondant au moins de l'ensemble de nos opérations de réécriture PI, PI plus 1. Vous savez en effet que dans les systèmes experts, l'opération de base pour formuler des règles, au moins dans les systèmes de production, est une opération P flèche Q, on lit souvent si P alors Q, modus ponens, qui est en première approximation, l'équivalent de notre opération de réécriture. C'est ce qui fait que lorsqu'il s'est agi de convertir nos schématisations en base de connaissances, l'opération a été, je dirais, quasi immédiate, puisque le formalisme était en gros le même. Ce que fait le système expert en plus, et c'est une distinction importante, c'est de collationner les faits et les règles. C'est ce que représente ici le symbole E dans le losange. Le moteur d'inférence qui occupe la place, c'est le composant informatique du système expert, occupe la place de mon losange, et la fonction du moteur d'inférence dans un système expert est précisément de collationner le contenu de la base de faits et de la base de règles pour en tirer certaines implications, certaines dérivations. Donc, en particulier, si, P dans, si on a le fait P dans la base de faits et la règle P flèche Q dans la base de règles, alors il s'ensuit Q que l'on réinjecte dans la base de faits. Mon propos n'est pas du tout de donner ici un exposé sur le fonctionnement des systèmes experts. Je ne crois pas du tout que ce soit ça qu'on attend de moi. Je supposerais que vous avez plus ou moins, non pas pratiqué peut-être, mais en tout cas lu des ouvrages sur les systèmes experts. Je rappelle simplement le principe pour montrer la congruence avec nos propres préformalisations. Un mot cependant sur le fonctionnement du moteur d'inférence qui est ici, qui remplace mon « et » dans le schéma précédent. C'est un exemple fictif, naturellement, avec des symboles quelconques. Supposons que dans la base de faits, nous ayons des faits désignés par les lettres A, G, L, O, P, Q. C'est un Q, oui. Et dans la base de règles, un certain nombre de règles que vous pouvez lire si, alors, si partie gauche, alors partie droite, si A, R, alors S, etc. Ces règles sont livrées sans ordre quelconque, dans les procédures déclaratives au moins. C'est-à-dire que le moteur d'inférence les parcourt dans un ordre qui lui est propre, si on a défini une stratégie interne de recherche, mais postulons ici, pour simplifier, que l'ordre de lecture est l'ordre d'énumération. Vous constatez que si l'on essaye d'appliquer la première règle AR flèche S, on constate qu'elle n'est pas applicable parce que nous n'avons pas dans la base de faits le symbole R, le fait R. On passe à la suivante, si G alors H. G est présent, donc on peut tirer H et le réinjecter à la base de faits. Le processus continue, je ne vais pas l'énumérer d'un bout à l'autre, jusqu'à ce que l'on ait saturé la base de règles, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on ait épuisé toutes les règles applicables. Vous noterez que certaines des règles dont on avait constaté initialement qu'elles n'étaient pas applicables le deviennent au fur et à mesure que le moteur d'inférence établit des faits nouveaux. C'est le cas, par exemple, de la règle 1, qui initialement n'est pas applicable, mais vous voyez que l'application de la règle 4 engendre R, donc nous avons A dans la base de faits initiale, R qui est un fait dérivé, réinjecté dans la base de faits, dès lors la règle numéro 1 devient applicable. Donc le système est un système itératif, dans le cas particulier il faut parcourir trois fois la base de règles pour la saturer et obtenir finalement l'inférence Z, qui est la conclusion du processus, l'équivalent de nos propositions terminales. Alors, pour vous convaincre un peu plus encore de la congruence des deux démarches, des deux approches, j'ai réécrit le schéma précédent sous forme d'une schématisation. Si vous voulez bien observer ici l'ordre d'application des règles, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, 3, 6, vous retrouvez cet ordre ici dans le sens ascendant, 2, 4, 1, 5, 3, 6. Ce que fait apparaître en plus ce schéma, ou réapparaître, c'est l'existence de ces niveaux successifs d'inférence qui étaient masqués dans la représentation précédente, mais qui ici paraissent plus clairement. Donc on retrouve, si vous voulez, par une conversion très simple de l'ordre d'application des règles, les niveaux successifs de dérivation ou d'inférence qui caractérisent les schématisations. Donc la congruence entre les deux approches, les deux démarches est totale. On retrouve aussi, incidemment, les deux modes de lecture possibles. J'évoquais tout à l'heure le mode ascendant ou descendant. Vous savez que la plupart des systèmes experts aujourd'hui travaillent, peuvent travailler dans les deux sens, je veux dire les moteurs d'inférence peuvent travailler dans les deux sens, qui ont respectivement nom, chaînage avant pour le sens ascendant et chaînage arrière pour le sens descendant. Donc on retrouve là aussi une homologie avec cette alternative qui nous avait initialement longtemps occupé et qui ne nous occupe plus aujourd'hui. Bon, je crois en avoir assez dit comme introduction. Et je voudrais maintenant, j'espère en avoir assez dit, mais si je n'en ai pas assez dit, vous pouvez m'interrompre et demander des précisions sur cette première partie, qui est en quelque sorte la base théorique, c'est un grand mot, mais disons la base principielle de ce qui va suivre. Si c'est clair, je passe à la seconde partie, qui est le vif du sujet, à savoir représentation des connaissances et intelligence artificielle. La question, la seule question qui nous intéresse, c'est d'apprendre quelque chose de neuf, disais-je au début, sur les constructions qui nous occupent en archéologie, sur nos raisonnements. Pour ce qui concerne la représentation des connaissances, nous voulons apprendre de manière plus limpide, plus claire, plus précise, la manière dont nous formulons, sans en être conscients souvent, nos connaissances, à la fois sur le plan des faits, P0, des descriptions d'objets et de monuments, et surtout sur le plan des raisonnements, c'est-à-dire les mécanismes, je ne dirais pas les règles, les opérations d'inférence, on ne parle pas de règles pour le moment, les opérations d'inférence que nous pratiquons. Autrement dit, ce qui nous intéresse, ce sont nos pratiques discursives. Examiner à travers, d'une part, les propositions descriptives, P0, et d'autre part, les propositions interprétatives, PI, PI plus ou moins 1. Alors, qu'est-ce que nous avons appris sur ce plan de la représentation des connaissances ? Je crois qu'il faut distinguer ici deux aspects, je ne dirais pas deux niveaux, mais deux aspects du problème de la représentation. L'aspect formel, avec toutes sortes de réserves sur la propos de ce terme, l'aspect forme, je dirais plutôt, et d'autre part, l'aspect contenu. L'aspect forme, concernant d'abord P0, c'est-à-dire les bases de faits. Le constat que nous faisons après une vingtaine d'années maintenant de travaux sur P0, c'est-à-dire sur les modes de représentation de nos objets, qui sont, comme vous savez, en archéologie très variés, depuis les poteries jusqu'aux cathédrales, archéologie, histoire de l'art, en passant par toutes sortes de monuments intermédiaires, si j'ose dire, en ordre de complexité, qui sont aussi des textes, travaillant sur les textes en archéologie, des tablettes anciennes, des inscriptions, etc. Ben, le constat que nous faisons maintenant, c'est que des équipes travaillant de façon indépendante sur ces sujets convergent sur le plan de la forme d'expression vers les mêmes formats. Ces formats sont des triplés qui peuvent être interprétés de façon différente, mais qui sont toujours des triplés. Je vous en cite deux ou trois variantes. Je vais les écrire au tableau. Surtout 70, nous avons beaucoup utilisé ça, et d'autres équipes aussi d'ailleurs, était un triplet de ce genre où l'unité de base des propositions descriptives était composée d'un élément affecté à une classe sur le plan paradigmatique, une ou plusieurs classes d'ailleurs, et affecté également d'un opérateur fonctionnel ou syntaxique ou logique, appelez-le comme vous voudrez, qui marquait son rôle en quelque sorte. On appelait aussi ces opérateurs des indicateurs de rôle, qui marquaient son rôle dans un contexte P0 plus large. Mais la proposition de base, enfin la proposition atomique, si vous voulez, descriptive, était une proposition composée de triplés de ce genre. Voilà une première variante de ces triplés. Une seconde a consisté à traiter les entités deux par deux, c'est-à-dire à remplacer ces opérateurs de fonction, qui étaient des opérateurs unaires à ce stade-ci, par des opérateurs binaires, des relationnels, et dès lors, les triplés prennent cette forme ici, prennent cette forme ici. Tous ces formats sont en usage aujourd'hui dans des bases de données variées, une entité de I, avec son indicateur fonctionnel FI, mise en relation avec une entité de J et son opérateur FJ. La manière de relier ceci à un entité consiste à transformer le couple FI-FJ en une relation entre EI et RM, la définition de l'opérateur relationnel ici, c'est le couple FIFJ. Agent, patient, entité, localisation, instrument, but, tout ce que vous voulez. Ce format-ci, cette seconde variante, est utilisée beaucoup dans des métalangages de représentation qui se rapportent à des textes en particulier. Les textes archéologiques, lorsqu'ils font l'objet, archéologique ou autre en fait, lorsqu'ils font l'objet de représentations P0, sont souvent transcrits sous forme de suites de propositions de ce type, des couples d'entités liés par une relation. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails sur ces sujets qui sont, je pense, pour vous peu intéressants, mais disons que ce qui émerge aujourd'hui, c'est que l'entité de base, pour le moment la plus commode, jusqu'à ce qu'on nous démontre qu'il y a quelque chose de mieux du point de vue pratique, l'entité la plus commode pour traiter, pour formuler les opérations, les propositions P0, c'est une entité syntagmatique, si vous voulez, composée d'un syntagme ARB. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont utilisé l'informatique, qui sont je suppose nombreux ici, vous savez que c'est aussi un des formats standards que l'on trouve dans les systèmes de gestion de bases de données, le modèle relationnel, dans les systèmes experts aussi, le système de Jean-Louis Laurière que nous utilisons, par exemple SNARK, est a pour unité de base dans les bases de faits des triplets de ce genre, objet, relation, objet, etc. etc. Je ne veux pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que c'est, à mes yeux, l'aspect le moins instructif. Il est instructif, certes, mais en fait, ce n'est pas une grande découverte que de constater que lorsque l'on veut atomiser l'information pour pouvoir la manipuler de manière plus flexible et plus riche, sur le plan combinatoire au moins, il faut essayer de trouver des unités de base aussi petites que possible, mais qui fassent du sens individuellement, et l'entité de base naturellement la plus naturelle dans ce sens, est composée de triplets de ce type. Et j'en viens maintenant à un aspect, à nos yeux, plus intéressant pour nous, c'est l'aspect contenu. Alors, là aussi, l'évolution est intéressante. Je fais un petit retour en arrière pour bien préciser que ces propositions P0 formulées en termes de triplets de ce genre, je disais que nous avons constaté que des applications archéologiques variées aboutissaient par approximation successive, par tâtonnement, au constat que c'était la manière la plus commode d'exprimer les propositions descriptives, mais je précise que c'est un constat que nous avons fait dans d'autres domaines que l'archéologie aussi. Il se trouve que l'équipe à laquelle j'appartiens depuis ces longues années a travaillé beaucoup dans le problème du traitement de l'information scientifique, du traitement textuel, bibliographie, bibliographie de sciences humaines. Eh bien, le langage que nous avions élaboré dans les années 60 pour traiter l'information scientifique de la bibliographie des sciences humaines était s'appelait le SYNTOL, Syntagmatic Organization Language, parce que son unité de base était un syntagme, ARB, aussi bien pour exprimer l'information paradigmatique d'ailleurs, c'est-à-dire les classifications, que pour exprimer, disons, l'ordre syntaxique des énoncés, ou des méta-énoncés, sur le plan syntagmatique proprement dit. D'autre part, toujours sur le plan des textes, il faudrait peut-être préciser aussi, pour ne pas que vous ayez trop le sentiment que ceci concerne uniquement l'univers de l'archéologie, par conséquent des objets matériels, nous avons travaillé sur les textes, comme par exemple le Coran. On produit une analyse conceptuelle du Coran sur ordinateur, dont l'unité de base aussi est un syntagme du même type, et pour les mêmes raisons. Je reviens maintenant à mon second plan, qui est l'aspect contenu. Alors, ici encore, on observe une évolution que je crois constructive depuis les époques anciennes de ces recherches dans les années 60 jusqu'à nos jours inclus. Cette évolution, s'il fallait la résumer d'un mot, je dirais qu'elle consiste à constater, après de multiples essais, l'échec des approches généralistes, les nôtres, et celles des autres aussi, mais enfin d'abord les nôtres, et la nécessité aujourd'hui où nous sommes, en attendant une troisième étape possible, de redescendre dans des cas particuliers et de ne traiter que des cas particuliers. Je m'explique. Les années 60, comme je le disais, rappelé hier à propos de l'intervention de Jean-Pierre Desclés, ont été les années, je dirais, d'une sorte de feu d'artifice de systèmes généraux de représentation des connaissances à travers le monde de l'information scientifique au moins. J'ai rappelé, en donnant un exemple chaque cas, les travaux considérables qui sont apparus dans ces années-ci en Europe, en URSS, en Italie, en Angleterre, en France, aux États-Unis, d'autres endroits aussi, qui tous avaient pour but de proposer des systèmes de représentation universalistes. Universalistes soit au sens propre du terme, c'est-à-dire pour toute espèce de connaissance, soit plus souvent pour des disciplines prises dans leur totalité. Nous sommes tombés dans ce panneau nous-mêmes pendant 10 ans, car je crois que c'est un panneau, au moins pour le moment, ça peut changer dans les 20 ou 30 ans qui viennent, mais pour le moment, nous ne sommes pas armés pour aborder des systèmes universels de ce genre. Nous sommes tombés dans ce panneau sous forme de construction de systèmes de représentation qui étaient sur le plan esthétique, je crois, assez jolis, sans doute, formellement élégants, mais qui n'ont pas eu d'usagers ou d'utilisateurs. Je prends des exemples concrets. Lorsqu'il s'est agi, dans les premiers temps de ce programme, d'aborder le problème apparemment le plus simple, qui est celui des banques de données, sans aller jusqu'à l'interprétation, autrement dit la phase strictement documentaire de ce programme, nous avons été confrontés immédiatement, vous vous en doutez, à ces problèmes linguistiques. Comment, par exemple, va-t-on nommer dans une banque de données relative à des ornements géométriques, qui se comptent par dizaines de milliers dans la littérature, comment allons-nous les désigner? Langage naturel, pas question, car ce langage naturel est aussi varié qu'il a d'usager, de locuteur. Chacun a sa manière de décrire les mêmes objets. Et ces manières, en plus, ne sont pas des manières lexicalisées, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas des milliers ou des dizaines de milliers de termes dans aucune langue naturelle pour désigner chacun de nos ornements. Nous sommes donc obligés de faire des périphrases, de longues phrases, souvent, pour décrire ces objets, lesquels n'étaient pas sympathiques pour le traitement sur ordinateur. Par conséquent, l'idée venait assez naturellement de construire des systèmes de représentation ad hoc pour l'ornementation géométrique, les formes de poterie, les formes d'architecture, l'iconographie en général, les inscriptions, etc., etc. Et nous avons, si étrange que ça puisse paraître aujourd'hui, à certains d'entre vous au moins, nous avons passé une bonne dizaine d'années, une douzaine d'années, à construire ce que nous appelions des codes, c'est un mot malheureux d'ailleurs, parce qu'il est trop normatif, des codes métalinguistiques, qui n'avaient aucun rapport avec le français ni aucune espèce d'autre langue naturelle, qui permettaient de nommer en effet des dizaines ou centaines de milliers d'ornements. Je prends l'exemple de l'ornement parce que c'était le plus spectaculaire, puisqu'avec une base de 20 signes élémentaires et un jeu de 30 opérateurs récurrents, organisé en 6 classes, donc quelque chose d'assez simple à manipuler symboliquement, nous pouvions engendrer des millions d'ornements, des compositions ornementales. Très très joli ce système sur le plan formel, du moins c'est ce qui a été dit à l'époque, et nous étions aussi de cet avis pour l'avoir créé, mais lorsque nous avons voulu l'appliquer à des corpus d'ornements particuliers, nous avons constaté que les éléments intéressants, les éléments distinctifs de l'ornementation que nous étions appelés à manipuler et donc à rechercher au moyen de systèmes informatisés, ne figuraient pas dans le code. Autrement dit que malgré la richesse de la combinatoire, les traits distinctifs qui nous intéressaient n'étaient pas réductibles à la base que nous avions proposée. Et nous avons fait la même expérience pour chacun des domaines successivement, iconographie, poterie, etc. L'analyse de ces échecs, qui est toujours instructive, a montré que, en fait, dans chaque application particulière, les chercheurs qui posaient des questions à ces systèmes documentaires les posaient sur des traits distinctifs qui étaient souvent d'ordre stylistique, qui étaient pour nous des variantes mineures par rapport à des macro-traits distinctifs qui, eux, figuraient dans le code. Mais enfin, après tout, ces chercheurs étaient en droit de poser que ce qui les intéressait, c'était tel ou tel trait, mais ces traits ne figuraient pas dans le base. Alors, au début, on ajoutait des épicycles, comme je disais hier, et puis au bout de 5 ou 6 années d'ajout d'épicycles, on constatait que le système devait d'une grande lourdeur et d'une grande incohérence aussi, et on était tenté de l'abandonner. Et finalement, on l'abandonnait parce qu'il n'avait cessé d'avoir des usagers. Ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'aujourd'hui encore, en 1987, il existe sur le marché des banques de données archéologiques récemment construites qui sont fondées sur la même philosophie d'une réduction universaliste et dont on peut postuler qu'elles n'auront pas non plus d'usagers pour les mêmes raisons. Ce constat, nous l'avons fait, je disais, à propos de la phase la plus simple de notre programme qui était la phase documentaire. Nous l'avons fait ensuite dans la seconde phase qui était la phase classificatoire. Vous savez qu'en archéologie, on est...